que Satan a pris pour tenter le Christ. Si vous vous arrêtez à cette logique-là, vous regardez ce qu'on appelle les trois tentations du Christ, et je n'irai pas dans les détails, mais les trois tentations de Christ étaient dans trois sphères de la vie. Et dans ces trois sphères-là de la vie, Christ a été tenté dans le domaine de la sphère même de se nourrir. Il dit, si tu es fils de Dieu, ben, que ces pains-là deviennent des pierres. Si on tourne, je ne l'ai pas pris, il n'était pas dans mes notes, mais je vais aller le chercher ici parce que j'en discute un peu avec vous. Donnez-moi une minute. C'est pas ici. Juste avant. Un petit peu trop. Bon. Si vous allez dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, le verset 2 nous dit où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut reculé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Ça, c'est le domaine naturel de pourvoir à ses besoins ou à ses appétits. On voit ce qui a été dit. Ensuite de ça, au verset 5, l'ayant élevé, il lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit, « Si tu prosternes et adores, je vais te les donner. » Je vous le paraphrase. « Car ils sont à moi et je les donne à qui je veux. » Là, on trouve dans le domaine de la sphère d'autorité, à ce niveau-là, je ne veux pas me rendre trop loin, ce que beaucoup de gens recherchent aussi. Le diable, ensuite de ça, le conduit au verset 9 à Jérusalem, le place sur le haut du temple et dit, si t'es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, et là, il va se servir de l'écriture même, ce qu'il a fait avec nos premiers parents, c'est que quand il nous a dit, Dieu n'a pas réellement dit, ne mangerez pas de tous les fruits du jardin. C'est ce qu'on appelle détourner la parole de Dieu à notre profit ou en prendre tout simplement la partie qui nous arrange. Et on voit que Jésus va lui répondre ici qu'il ne tentera pas Dieu. C'est trois sphères dans lesquelles l'homme évolue et sans prendre trop de temps, quand on va nous-mêmes dire si le Seigneur m'aimait, il ne permettrait pas que je traverse ceci ou cela, vous rendez-vous compte que on fait exactement ce que l'ennemi a fait sous une certaine forme, c'est-à-dire, on dit à Dieu, si tu m'aimais vraiment, comme si le fait que Dieu s'était incarné en Christ et de donner sa vie pour tes péchés n'est pas suffisant pour te montrer son amour, on y ajoute, c'est de tenter à ce niveau-là. C'est de tenter Dieu, si vous voulez. Et Christ a été tenté en tant qu'homme à tous ces niveaux-là. Sans fauté, sans péché. Donc, en plaçant côte à côte une vérité à un mauvais comportement ou à une mauvaise idée, on a tendance à agir dans le même sens. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire à regarder l'amour de Dieu selon ce qu'on peut obtenir de lui. Et ça, c'est l'amour au niveau humain. Le Seigneur s'attend à ce que ses enfants aient un amour qui pousse un peu plus loin, qui pousse beaucoup plus vers l'agapéos, ou l'amour agapé, que vers l'amour philia, ou que vers les autres types d'amour qu'on peut voir. Donc, l'amour de Dieu, qu'on a lu tantôt, où Paul parle que cet amour-là de Dieu est enraciné le verset 17. Parce que Christ habite en nous, dans nos cœurs, par la foi. Enraciné, fondé, ça veut dire qu'elle devrait être bien, bien placée en nous, avoir de la racine et pouvoir nous donner la force de traverser certaines choses. J'ai appris avec étonnement, mais aussi avec peine, un bien-aimé qui nous a quittés de façon précipitée, crise cardiaque, je crois bien. Et je dis à ma femme, je me rappelle la dernière fois que j'ai eu un temps avec lui. Est-ce que Dieu est bon parce que ce frère-là est parti de cette façon-là, ou il faut tous partir dans notre sommeil, il ne voudrait pas partir du tout? On va regarder certaines choses. 2 Timothée, chapitre 3, verset 2, et je vous le dis, ce qu'on va regarder ne fera l'affaire de personne. C'est mon entrée en matière pour les 2 prochaines semaines, soyons clairs. On voudrait tous mener une vie sans persécution. Si Dieu nous aime, il ne devrait rien nous arriver. Dans 2 Timothée 3, 2, il nous dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse, vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. » La persécution peut prendre diverses formes. D'un pays à l'autre, il y a des variantes. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Est-ce que Dieu manque d'amour? La parole de Dieu a dit, on n'est pas plus que son maître. Notre propre maître a été persécuté. Est-ce que Dieu pourra enlever toute persécution de nos vies? Bien entendu, un jour ça va arriver d'ailleurs. Mais avec les différents éléments que je vais vous donner, à la fin, si on dit, le Seigneur pourrait tout faire ça et il devrait le faire, notre marche ne serait plus par la foi. Ce serait une marche par la vue. Si Dieu prendrait chaque chrétien et les mettre sous cloche de verre, il ne peut rien nous arriver. Il ne peut rien arriver à leur famille. Ils ont toujours de l'argent en abondance, toujours de quoi manger dans la maison, toujours un bon lit pour dormir, compte de banque bien rempli, jamais malade. Eh bien, où serait la marche par la foi? Ce serait une marche par la vue. Et le Seigneur a dit que ça marcherait par la foi. Donc, premier élément, une vie sans persécution, la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont avoir des persécutions. Deuxième chose, une vie sans souffrance. Et qu'on aimerait ça. Une vie sans souffrance. Tournez dans Jacques au chapitre 5, on va prendre les versets 10 et 11. Prenez, mes frères, pour modèle. Vous savez, c'est quoi un modèle? Un exemple. Pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Plus quelqu'un s'investit dans l'œuvre, plus il va donner dans l'œuvre et plus l'ennemi va chercher à le ralentir par toutes sortes de choses. Une vie sans souffrance, le verset 11 de Jacques, chapitre 5, nous dit, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Ça veut dire que si on est patient dans la souffrance, qu'on va tous mourir aussi riche que Job. Ce n'est pas ce que ça veut dire. La fin, l'Ancien Testament, les choses étaient axées. On reconnaissait la bénédiction de Dieu avant le Christ par les faits matériels, tous les faits matériels. Regardez ce qui est arrivé à Job. Regardez ce que sa femme a dit. Regardez ce que ses amis ont dit. On voyait la bonté de Dieu chez un homme à ses avoirs, à la vie qu'il menait, avec la venue de Christ. Jésus va dire, et on l'a lu la semaine dernière, où Jésus va dire à propos de Lazare, à sa sœur, Il dit, celui qui vivra ne mourra pas. D'accord? Donc, ici, le modèle de souffrance dont on nous parle, qu'on dit bienheureux, l'exemple de Job que l'apôtre Job nous donne, et il dit à la fin, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Le trois quarts des apôtres ne sont pas décédés avec un soluté dans le bras étendu à l'hôpital avec des calmants. Jacques a été passé au fil de l'épée. Pierre, selon la tradition, on nous dit qu'il a été crucifié la tête en bas. Paul s'est fait couper la tête. Une vie sans tentation. Je vais tout vous ramener ça tantôt. Une vie sans tentation. Vous tournez dans Matthieu, chapitre 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Une vie sans tentation n'existe pas. La tentation, la parole de Dieu nous dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, ou dans toutes les sphères, si vous voulez. A été tenté comme nous en toutes choses. Une vie sans tentation, c'est la recherche, en fait, de la marque d'amour de Dieu à travers ce qu'on vient de prendre là. C'est chercher la facilité de la vie. Et ne me dites pas, personne, que personne n'aime pas avoir la vie facile. On aime tous avoir la vie facile. On aime tous les shortcuts que j'appelle. C'est-à-dire que tout le monde aime se la couler douce. Mais à cause du péché, les choses ont été changées dans le monde. Il y a une malédiction qui a été prononcée sur la terre et sur ceux qui l'habitent. Donc, vous direz au frère Sonny Camacho que je suis en train de donner un cours, il est en train de m'appeler. Cet amour-là de Dieu se manifeste de la manière suivante. L'amour de Dieu se manifeste en ce que Dieu a exercé un sauvetage. Nous, on voudrait que l'amour de Dieu soit principalement à nos besoins physiques, à nos besoins humains. Et ce n'est pas là qu'elle se situe. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment en dresser un mot, en regarder les pourtours. L'amour de Dieu consiste, c'est ce que l'Épître de Jean nous dit, l'amour de Dieu consiste en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ a donné sa vie pour nous. Donc, l'amour de Dieu consiste en un sauvetage. C'est d'abord cela. Si Christ, il ne l'a pas dit là, mais si Christ aurait dit, je viens sur la terre, je donne ma vie pour vous, pour vos péchés, et après ça, vous ne recevrez plus rien de moi jusqu'au jour où vous serez dans le royaume de Dieu avec moi. Bien entendu que le Seigneur n'a pas dit ça. Bien entendu que le Seigneur prend soin de nous. Bien entendu qu'il pourvoit nos besoins. Mais l'amour de Dieu, et je vous le répète, consiste en un sauvetage. Il peut y avoir, dans cet amour-là, que Dieu peut nous sortir de des situations périlleuses, nous sortir de des situations difficile, voire nous sortir de des pièges dans lesquels nous nous sommes jetés nous-mêmes par amour. Le Seigneur peut le faire, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur va le faire. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu consiste d'abord, avant toute chose, en un sauvetage. La race humaine était perdue, sans Dieu. La race humaine, même en faisant le mieux qu'elle aurait pu, avec le plus de bonnes œuvres possible, la race humaine ne pouvait pas atteindre le standard de sainteté qui est requis pour entrer dans la présence de Dieu. Et en cela, quand les temps furent accomplis, Christ est venu comme rançon ou pour te racheté et a donné sa vie à ta place. Et tu as appliqué sa sainteté, et quand tu adhères, c'est là que le sauvetage se produit. Donc, l'amour de Dieu se situe principalement, je ne vous dis pas exclusivement, mais principalement à ce niveau. Quand je dis quelquefois à des gens qui font soit de la relation d'aide avec moi ou différents cours avec moi, souvent, je vais dire aux personnes, notre Dieu est un Dieu d'amour, mais pas selon ta conception, selon ce que lui en dit de l'amour. Je vous donne un exemple. Et ne me dites pas non, là. Si Dieu vous dirait, mettons très, très clairement, là, même pas par un verset, très clairement, d'aller acheter un billet de loterie et que tu vas remporter la cagnotte. Je suis certain que tout le monde irait s'acheter un billet de loterie. Puis ensuite de ça, tu dirais, le Seigneur, je vais donner ma dîme. Puis le Seigneur dirait, non, non, je veux que tu donnes le tout. Je veux pas que tu gardes 25 sous. Je me suis servi de l'argent du monde pour enrichir mon peuple. Admettons. Est-ce qu'il y aurait une hésitation de votre part? Au même ordre, à la même clarté. Je ne répondrai pour personne. Je ne vous dirai même pas ma réponse. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a une conception de pourquoi Dieu fait les choses, et Dieu a une conception du pourquoi lui fait les choses. Nous, on pense savoir. Et Dieu sait. Donc, dans le domaine de l'amour, une vie sans persécution n'est pas un signe d'amour. La parole de Dieu nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ça va arriver. Une vie sans souffrance, à cause du péché qui est rentré dans le monde, Jacques nous dit de prendre comme modèle ceux qui ont souffert avant nous. Une vie sans tentation, Christ lui-même qui est notre maître, a été tenté. Donc, sur ces aspects-là qu'on vient de voir, Dieu déverse son amour pour qu'on puisse mener une vie. Et Paul va prier à ce niveau-là, les Éphésiens, il n'est pas en train de prier les Éphésiens, là, il prie Dieu, là, mais d'avoir une bonne vision. Paul, il prie Dieu pour ses frères à Éphèse puissent concevoir l'amour de Dieu de la bonne façon. Et c'est un bon exemple de prière ici que je vous invite à découvrir et on va en prendre certains paramètres. Je prends les versets 14 et 15 qu'on a lus en début. À cause de cela, je fléchis les genoux. Et on va regarder certaines choses. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ici, à cause de cela, et dans certaines versions, vous avez c'est pourquoi, fait référence en fait à 3.1. Ce qu'on a eu à 3.1 et les deux enseignements qu'on a eus derrière nous étaient. Si vous voulez une longue parenthèse, où Paul va dire qu'il est prisonnier, pas prisonnier des Romains, si vous vous rappelez bien, prisonnier de Christ. Paul va dire, je sais être satisfait dans la disette comme dans l'abondance. La satisfaction ne dépend pas de ce qu'on possède, bien souvent. Dépend de notre attitude. Donc, l'exemple de la prière de Paul au verset 14, quand il dit « Je fléchis les genoux, fléchir les genoux », et ces versets-là, de 2 à 13, qu'on a vu les autres semaines, ont formé une parenthèse, et là, Paul revient à son développement de pensée premier si vous voulez, comme quoi que la longue parenthèse est terminée. Et Paul va dire certaines choses. On va prendre la position. Paul va dire, je fléchis les genoux. Je m'humilie devant Dieu. Pour d'autres, pour les Éphésiens. Quelquefois, les gens vont prier et ils oublient souvent de prier pour les autres. Souvent, nos prières, et je ne vous dis pas vous, je vous parle de l'Église avec un grand E, c'est souvent une longue liste de requêtes, de demandes pour soi. Un peu comme j'avais prêché à un moment donné et j'avais dit aux gens, Dieu n'est pas une machine distributrice où on y commande quelque chose. Oui, on demande et Dieu donne selon sa volonté. Et même là, la parole de Dieu nous exhorte à ce que nos prières soient bien alignées avec la volonté de Dieu, mais c'est pas dans ce contexte-là que je veux vous amener, mais où Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant Dieu, s'humilie devant Dieu pour que les Éphésiens reçoivent ou comprennent quelque chose. En tant que pasteur, dans l'Église, quelquefois, quand on voit des gens se conduire d'une façon qui serait plus ou moins acceptable, ou qu'on voit des bien-aimés qui posent des gestes plus ou moins concordants à la foi, c'est sûr que des fois, on fléchit les genoux. C'est sûr que quelquefois, il peut y avoir des larmes et qu'on peut... de dire au Seigneur, « Mais Seigneur, réforme les bien-aimés. » Je calcule que la pandémie qu'on a eue là, mise à mal les relations dans les églises, mise à mal la vision même de l'Église. Et un verset que vous allez peut-être trouver un peu difficile, mais un verset que Jésus donne qui m'a un peu réconforté, parce que je me disais, à un moment donné, est-ce que je fais un mauvais travail ou quoi? Et j'ai lu dans la parole de Dieu, où Dieu dit, il faut qu'il y ait des divisions parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés apparaissent, si vous voulez, comme tels. Ce qui ne nous empêche pas de fléchir les genoux, soit dit en passant. Dans le contexte qu'on regarde là, Paul fait un appel antérieur, si vous voulez, à ce qu'il a dit au début du chapitre 3, où il dit qu'il fléchit les genoux, que lui, prisonnier dans le Seigneur. Dans les versets 19 à 22, je vais pousser un peu plus loin ici. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Je ne vous parle pas là, des versets qu'on vient de voir là. Je vous parle toujours dans ce qu'on étudiait l'autre semaine. Mais des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. C'est ce que nous dit le chapitre 2 d'Éphésiens. Vous pourrez le reprendre. Je le reprends juste à peine pour vous mettre dans le contexte. On était fondés sur l'enseignement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, rappelez-vous, je vous avais parlé la pierre de l'angle. Et l'édifice, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour un temple saint dans le Seigneur. Chapitre 2, verset 11, verset 21 et le verset 22 nous dit « En lui, chapitre 2, verset 22 d'Éphésiens, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On est des concitoyens des saints, membre de la famille de Dieu, édifice bien coordonné, temple saint, habitation de Dieu en esprit. Dieu nous a vraiment aimés. Je vais juste vous donner l'autre facette d'un peu de ce que je vous ai donné souvent qu'on demande à Dieu une vie sans souffrance, une vie aisée et ainsi de suite. Mais regardez notre position en Christ, dont je viens de vous citer que quelques paramètres. Tournez dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. où il nous est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous et qui est maintenant être le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, qu'est-ce que Paul nous demande de regarder dans Éphésiens à la lumière de juste les quelques versets que je viens de vous prendre là? Il nous demande de regarder, de contempler, de voir au-delà de nos besoins physiques, au-delà de notre humanité, pour voir les privilèges, pour contempler les privilèges que nous avons en Christ. Au lieu de s'arrêter à nos petits désirs personnels, à nos petits besoins, même à nos grands besoins. Les gens disent souvent que notre santé, c'est notre bien le plus précieux, et à raison. C'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas notre bien le plus précieux, en fait. L'amour que Dieu a manifesté en Christ, par lequel il a fait ton sauvetage, c'est ton bien le plus précieux. Parce qu'après cette vie-là terrestre, ta vie continue. Après que ton corps va être laissé pour compte, toi, tu vas continuer à vivre. Les privilèges que je vous ai mentionnés qu'on avait en Christ, c'est ceux-là qui doivent être regardés pour apprécier quel amour Dieu a pour nous. Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, héritiers, il n'y a pas un homme plus riche que Dieu, non? Héritiers de la grâce et de tout ce que ça comprend. Et on pense que Dieu ne nous a pas aimés parce qu'il ne nous a pas donné nos petits désirs, nos petits caprices. Paul dit qu'il plie les genoux. Il ne faisait pas d'entraînement sportif, là. Mais c'est plier les genoux ici est une expression de soumission et d'adoration, de respect et d'humilité, de dépendance envers Dieu. On trouve parfois dans la Bible, on trouve d'ailleurs plusieurs postures dans la Bible. Et je dis toujours, le plus important, c'est la posture de l'âme. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, moi, pasteur, si je ne suis pas à genoux, je n'ai pas l'impression que je prie. Bon, on change que tu as tes deux jambes, hein? Soyons clairs. C'est la posture de l'âme qui compte. Paul nous parle ici d'une posture physique qui démontre une posture de l'âme spirituelle. D'ailleurs, au moment de la dédicace du temple, pour vous en donner que quelques exemples, dans 1 Roi, chapitre 8, verset 54, lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et sa supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Donc, ne trouvez pas ça bizarre que dans des églises, il y a des gens qui lèvent les mains vers le ciel. C'est un signe d'abandon devant le Seigneur. On trouve que Esdras s'est mis à confesser ses fautes, les fautes du peuple, et d'intercéder à son égard, dans Esdras, chapitre 9, versets 5 et 6. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchirés, je tombai à genoux. J'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever la face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux.
Quelquefois, quand on va devant le Seigneur, devant notre toute suffisance, juste notre attitude, quelquefois, est mal. Est-ce que vous vous rappelez de deux hommes qui sont montés au temple pour prier? Un pharisien et un publicain. Un, levant les mains vers le ciel, il avait la bonne posture, dit, je te rends grâce, Seigneur, de ne pas être comme le reste des hommes, d'être ni ravisseur, ni outrageux. Il dit, je fais ma prière trois fois le jour, je donne la dîme de tous mes revenus. Mais écoute, il regarde le publicain à côté de lui. Il dit, je te rends grâce de ne pas être comme le publicain. Et le publicain qui était à côté, la Bible nous dit, se frappait la poitrine, il disait, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. La Bible nous dit, celui-ci retourna dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Donc, que l'attitude devrait aller avec la position. L'amour que Dieu dit avoir pour nous, parce que je suis toujours dans mon même sujet là, pour ce soir, l'amour que Dieu dit avoir pour nous, il l'a démontré. Il l'a démontré en Christ. Il l'a démontré en nous donnant le sauvetage, la bouée de sauvetage que nous avions besoin pour entrer dans l'éternité. Dans Daniel, chapitre 6, verset 10, et je le fais rapidement, nous montre que Daniel s'agenouillait trois fois le jour pour prier. Dans le psaume 95, verset 6 et 7, je le donne pour ceux qui prennent des notes, là, la parole de Dieu nous exhorte à cela. Si on le prend, ça nous dit directement, venez, prosternons-nous, pas juste de se mettre à genoux, et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui la voix de l'Éternel ou sa voix. Donc, que l'attitude va de pair avec les gestes que nous posons. Les gens qui disent Dieu est bon et ils ne font que se plaindre de Dieu. Les gens qui disent Dieu est bon, mais ils ne font que de se plaindre, que de leur sort. Il faut se poser la question, et c'est un peu ce que je veux arriver ce soir. Il faut se poser la question, s'ils ont vraiment connu l'amour de Dieu? Est-ce qu'ils connaissent vraiment l'amour de Dieu? Est-ce que vous avez déjà été malade? Si vous avez un certain âge, à moins que vous soyez comme un de mes frères avec qui je blague souvent, j'ai un de mes frères dans la chair, mon frère Denis. Cet homme-là, gloire à Dieu, là, cet homme-là est rendu il y a 2 ans de plus que moi, donc il est à 64 ans. Puis la première fois qu'il y a eu une indigestion, il aurait dû avoir peut-être 61, 62 ans. Moi, je fais des indigestions toutes les semaines, mais pas lui. Sa fille a dit, tu fais peut-être une crise cardiaque, il s'en allait à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils l'ont branché. Mon frère me dit, il m'appelle. Il me dit, ben, 1 heure ou 2 après, j'étais correct. Puis je voulais manger, je voulais m'en aller de là. Et je suis sorti de l'hôpital. Je t'ai fait une indigestion. C'est ce qu'ils m'ont dit. Je dis, voyons donc, pourquoi tu étais à l'hôpital juste pour une indigestion, Denis? Puis je ne savais pas, je suis une indigestion. Puis je dis, ben voyons donc, tu as 62 ans. Tu n'as jamais fait d'indigestion, toi? Il dit, non. C'est pour ça qu'à la blague, souvent, il va me téléphoner, on échange des choses. Ah, hier, j'étais malade. Je suis malade, Denis, je sais que tu ne comprends pas ce que ça veut dire, le sens du mot malade, quelqu'un qui ne se sent pas bien, et ainsi de suite. Mais sérieusement, gloire à Dieu, le Seigneur l'a pourvu d'une bonne santé. C'est un homme qui est vigoureux, qui est fait fort. Gloire à Dieu. Votre serviteur, moi, je peux plus compter sur le bout de mes doigts les semaines où je n'ai rien. Je suis régulièrement malade. Je lui disais à ma femme, tandis d'être malade, Et ma femme m'écoute, elle est juste dans l'autre pièce. Je dis à ma femme, ben, je préfère fermer les lumières quand je suis le temps d'être malade. J'aime autant louer le Seigneur. J'aime autant que ce soit productif. Des fois, les louanges sont un petit peu faibles dans la voix, là, mais autant louer Dieu. Autant louer Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Si on se prosterne et on s'humilie devant le Seigneur, si nous ne regardons pas qu'à nos situations humaines, mais qu'on regarde à ce que Dieu nous a donné. Le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Il ne nous a pas donné là, quelque chose de passager. Là. Il ne nous a pas offert un salut à rabais. Là. Il nous a donné tout à fait gratuitement la vie éternelle. C'est de l'amour vrai. Là. Donc, avant d'élever une plainte, ça peut arriver quelquefois. Ça peut arriver quelquefois. On se plaint. C'est possible. Mais on doit toujours mettre en balance de quel amour le Seigneur nous a aimés. Tournez dans l'évangile de Luc, chapitre 22. Je vais vous prendre les versets 40 et 41. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux. On parle là de la prière que le Seigneur va faire dans le jardin, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Et s'étant mis à genoux, il pria. À bien plus forte raison, vous et moi. À bien plus forte raison, l'amour de Dieu qui supplante tous les amours humains, cet amour-là qui nous habite, on doit le laisser éclore. Et pour cela, il faut apprécier non pas ce que nous n'avons pas, mais ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est la vie éternelle en Christ. Je crois personnellement qu'il est parfois nécessaire de tomber à genoux, d'exprimer nos angoisses, d'exprimer nos peines et nos manques à genoux. Je crois que quelquefois, c'est nécessaire. Quelquefois, nous devons le faire dans le secret de notre vie de prière, fermer la porte de notre chambre, nous agenouiller, puis exprimer, dire de notre bouche les choses, les verbaliser. J'enseignais sur la prière et je disais, beaucoup de gens me disent, je prie dans mon cœur. La parole de Dieu, c'est pas juste comme ça qu'elle l'enseigne. Elle nous dit de prier de vive voix. Pourquoi? Parce qu'en priant de vive voix, on capte notre intellect aussi. Exception faite de ceux qui ont des limitations physiques, naturellement. La prière faite dans une position d'humilité, comme à genoux, doit être accompagnée d'un corps, d'un cœur ou d'un âme contrit, humilié. Puis quand on parle d'humiliation, on ne parle pas ici d'humiliation telle qu'on le conçoit nous, quelqu'un qui s'est fait humilier. On parle de quelqu'un qui connaît sa vraie position, quelqu'un qui sait qui il est lui-même et sait surtout qui est Dieu, qui est le Seigneur. Il va voir la grande disparité, puis il va s'humilier. Soyons clairs. C'est sûr que ce n'est pas la seule position à genoux à prendre. Dans Genèse 18, 22, on nous dit qu'Abraham était debout pendant le temps qu'il priait. Je ne les prends pas là avec vous, je vais aller un peu plus loin. Dans 1 Chronique, David était assis lors d'une prière. La parole de Dieu nous dit que David a même dit à Dieu qu'il était son propre père. le Père de la création. Dans Actes des apôtres, lors d'une prière, on nous dit que les apôtres étaient tous réunis ensemble et étaient en train de prier. On ne nous dit aucune position. Mais si Dieu est notre Père, et on sait qu'il l'est, il a fait que nous sommes tous issus d'un seul sang, s'il est notre Père, à nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Et là, ici, là, je vais faire un bémol. J'ai encore un peu de temps. Je vais faire un bémol. Les gens disent, on est tous des enfants de Dieu. Non, 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 on est tous des créatures de Dieu. Certaines de ces créatures ont choisi de devenir ses enfants. Sinon, la parole de Dieu, et là, on peut dire un ouch collectif, avant notre conversion, la parole de Dieu, Jésus va dire, vous avez pour père le diable. Je sais que c'est difficile un petit peu, là. Mais c'était notre père avant. On avait pour père le diable. C'est pour ça que je dis souvent, le dernier péché qui sort du chrétien, généralement, c'est le mensonge. Parce que tu avais pour père le diable, puis lui, c'est le père du mensonge. Donc, tu avais une filiation avec lui. D'accord? Donc, si les choses sont ainsi, eh bien, Christ nous a démontré son amour, Dieu nous démontre son amour, et quelle attitude, quelle responsabilité, c'est un peu ce que je veux qu'on regarde en terminant, nous devons avoir de bien comprendre cet amour-là et de bien apprécier cet amour-là. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Cette nouvelle créature-là qui est en Christ devrait apprécier la différence de son ancienne vie à sa nouvelle vie. Devrait voir ce que Dieu fait avec lui, ce que Christ fait avec lui. Quand on parle d'amour, et je ne me suis pas étendu sur l'amour humain, je ne me suis que concentré que sur l'amour divin. Mais je voulais que vous voyiez ce soir combien, quelquefois, nous la percevons très, 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 très mal. On la perçoit mal, et donc qu'on en a une mauvaise vision, et on porte un jugement sur l'amour que Dieu a pour nous. Je vais vous amener dans Jean, chapitre 8. On a encore un peu de temps. Jean, chapitre 8, versets 42 à 47. Où il est écrit, « Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi, là ici, je vais mettre un emphase, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? » Regardez bien. Je vais aller plus loin et j'y reviendrai. « Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Donc, l'amour de Dieu. Christ ici va parler de son langage. La parole de Dieu nous parle. Chaque fois que tu lis la Bible le matin, ce matin, j'étais avec mes petits-enfants que je gardais parce que tempête de neige dehors. Et il n'y avait pas école aujourd'hui. Mais mes petits-enfants, s'ils ont fait aussi, depuis qu'ils viennent chez moi, ils savent que grand-papa et grand-maman, quand ils prennent la parole de Dieu, ils doivent s'occuper. Et mes petits-enfants écoutent d'une oreille. et j'étais en train de lire avec mon épouse. Si la parole de Dieu n'habite pas dans ta maison, si la parole de Dieu elle est prise le dimanche, tout simplement, elle n'habite pas chez vous, elle ne s'entend pas chez vous, elle n'a pas de prise dans ta maison, eh bien, c'est que tu ne comprends pas le langage que Dieu emploie. La parole de Dieu veut nous parler, si on veut qu'elle nous parle. L'amour de Dieu dont on est en train de parler peut être apprécié, même en ces temps difficiles, même en ces temps de confinement, même si tu es malade, même si peut-être tes finances ne sont peut-être pas dans un excellent état. La parole de Dieu nous dit que Dieu est bon, miséricorde et qu'il nous aime. Ce n'est pas les circonstances de notre vie qui vont changer la chose. Et c'est pour ça, dans les versets d'Éphésiens qu'on a pris, qu'on a parlé de hauteur, de longueur, de largeur, de profondeur. Si vous voulez, on va le reprendre. Juste pour bien vous remettre dans le contexte. Revenez dans Éphésiens. On va reprendre un peu les versets qu'on a pris au chapitre 3, et je vous prendrai à partir du verset 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit ou dans l'homme intérieur. » Si vous êtes fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Et à partir du verset 18, que vous puissiez comprendre. On vient de prendre un texte où Jésus va dire, pourquoi comprenez-vous pas mon langage? La parole de Dieu nous dit ici, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, longueur, profondeur, hauteur de cet amour-là. L'amour de Dieu est fondé. L'amour de Dieu est quelque chose de stable. C'est enraciné. Si on bouge, ce n'est pas que Dieu nous aime moins. C'est qu'on le voit moins qu'il nous aime. On a mis des choses de côté. On ne regarde pas au bon endroit. On cherche autre chose. La parole de Dieu, elle, nous dit que Dieu est riche en gloire. On l'a pris tantôt. Et il veut nous fortifier où? Dans notre homme intérieur, dans ton esprit. Dieu veut te fortifier dans ton esprit, dans ton homme intérieur, en sorte que Christ habite en toi par la foi et que tu puisses voir, réaliser, te rendre compte avec tous les saints quelle est la longueur, largeur, hauteur, profondeur de cet amour-là qui nous est offert en Christ. De cet amour-là qui nous est offert en Christ. Et Jésus va dire, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Est-ce qu'on comprend? Ce soir, la question que je vous pose, est-ce qu'on comprend de quel type d'amour Christ nous a aimés, Dieu nous a aimés? Est-ce qu'on comprend le type d'amour que Dieu nous a proposé en Christ? Il nous a proposé pas un amour humain, pas avec des dimensions humaines, comme nous on calcule. Si ma femme prend soin de moi, elle m'aime. Si ma femme s'absente puis j'ai besoin, elle m'aime moins. Soyons bien, bien clairs, bien-aimés. Comprendre le langage de Dieu demande un certain temps. Comprendre le langage de Dieu demande un certain temps d'arrêt dans la lecture de la parole, mais aussi dans la prière pour faire descendre les paroles qu'on a lues plus en profondeur dans notre âme intérieure. Dieu peut faire bien des changements avec nous. Il peut nous faire voir et cette situation-là pandémique et bien d'autres choses de façon différente. Si on comprend de quel type d'amour Christ nous a aimés, nous sommes tous des humains, et quelquefois même des humains religieux. Si quelqu'un refuse la parole de Christ, il se place en dehors de Dieu. Et donc, il ne peut pas comprendre ce type d'amour-là. Mais si vous vous placez en Christ, dans le Seigneur, vous n'aurez aucune crainte sur cet amour-là, parce que la parole de Dieu va vous édifier, va nourrir votre homme intérieur, va vous amener dans la prière à voir, à contempler quel type d'amour Christ a eu pour vous. Dans la prière, quel est le but? Et je vous prends quelques minutes. Quel est le but de la prière de Paul ici? Quand il dit « Je fléchis les genoux » afin ou en sorte que... Il y a trois objectifs ici à la prière de Paul. Suivant ça, on va plonger dans d'autres éléments, mais on va arrêter là après. Dans les trois objectifs qu'on va regarder un peu plus loin, on voit certaines choses. C'est pour ça que c'est important qu'on examine un peu ces éléments-là avant de plonger. L'essentiel de notre vie de prière, est-ce qu'elle est riche ou elle est pauvre? Est-ce qu'on prie juste avant de manger? Ou juste avant de dormir, avant de faire notre dodo le soir? Est-ce que notre vie de prière se résume à cela? Si notre vie de prière se résume à cela, c'est sûr que ça va être difficile dans l'adversité de voir l'amour de Dieu. Si notre vie de prière n'est pas satisfaisante, si notre prière, voire est même inacceptable, tournez dans Jacques 4:3. Et j'avais déjà fait un enseignement là-dessus. Je vous ai dit que le trois quarts des prières inexaucées s'engouffraient dans ce passage-là. Jacques chapitre 4, verset 3, va dire, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le trois quarts des prières inexaucées, il y a des raisons pour lesquelles les prières sont inexaucées. Celle-là étant la plus grande. Il y en a d'autres. La parole de Dieu nous dit d'être en paix avec nos femmes pour que rien vienne faire obstacle quand on va à la prière, entre autres. Il y a d'autres raisons aussi. Mais dans l'enseignement que j'avais donné, je vous avais dit que le trois quarts des prières inexaucées s'engouffrent dans ce verset-ci. On demande, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. On demande mal parce qu'on ne comprend pas quel est le plan de Dieu, l'amour de Dieu, la vision de Dieu, et on demande pour satisfaire nos passions. Qu'est-ce qui est une passion? Tout ce qui passe en avant de Christ. Christ doit être notre passion. Le restant, c'est des intérêts. Si nos prières sont inexaucées, Paul fléchissait les genoux et partout, vous allez voir dans les épîtres de Paul, un peu partout, vous allez voir rarement l'apôtre prier pour lui-même. Il prie pour les églises, il prie pour les autres. Rarement pour lui-même. Ça devrait nous donner un exemple. Donc, l'essentiel de notre vie de prière ne doit pas être pauvre, ne doit pas se faire quand on prend nos trois repas par jour. Il y en a qui en prennent 4-5. Ils prient plus que les autres. Ou, ben, c'est une blague. Ou quand on dort le soir. Prier pour satisfaire nos passions ou nos désirs dans un couple, dans le travail, dans nos avoirs, si vous n'avez pas de réponse favorable, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. C'est que l'amour de Dieu ne se situe pas à cet endroit. Je termine avec ça. Non? Elle ne se situe pas à cet endroit. On pourrait regarder des dizaines d'exemples d'instructions sur la prière et voir que la prière essentielle, pas exclusivement, là, mais essentielle, est dirigée vers l'autre. Et la prière essentielle va sculpter votre âme. Parce qu'elle va faire sortir de ce qui est à vous et va faire entrer ce qui est à Christ. Vous comprenez? Le Seigneur, à travers la prière, il nous vide de nous-mêmes et il nous remplit de lui. C'est-à-dire, ça va sculpter ton âme à l'image de Christ. C'est un outil pour que votre vie soit transformée, pour la transformation de votre caractère, entre autres. Caractère plus difficile, bon, la prière. La prière, qui est négligée, surtout dans nos temps modernes, avec les différents médias sociaux et ainsi de suite, qui est négligée, pas au détriment de Dieu, à notre plus grand détriment à nous. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu se nourrit avec ça? C'est notre moyen de communion, de communication avec Dieu, et c'est le moyen principal avec lequel ton âme va ressembler à l'âme de Christ. C'est le moyen, l'outil de sculpture de l'âme, de transformation de caractère. Et on s'en prive. Donc, bien ciblé, bien centré, qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, ce n'est pas de répondre à tes caprices. Dieu n'est pas une machine distributrice dans laquelle on insère notre dîme et qu'on va chercher quelque chose. Il est beaucoup plus que ça. Il peut nous donner quelque chose. Mais Dieu a un plan pour ta transformation. Dieu a un plan pour la sculpture de ton âme. Dieu a un plan pour que tu arrives devant lui à la fin de tes jours et que tu sois plus conforme à son image, à lui. La semaine prochaine, on va regarder un peu le but. Là, j'ai regardé un peu l'amour et je vous ai introduit un peu dans le terme de comment on conçoit, comment la concevoir, cet amour-là. Et dans la prière, je vous ai dit comment on pouvait recevoir et les mauvaises prières, comment on ne reçoit pas. Et la semaine prochaine, on va regarder quelle force intérieure ça va nous donner pour traverser les différentes étapes, les différents éléments de notre vie. Peut-être moins ce que je vous donne là, peut-être moins, éclatant, parce que tout le monde doit dire, on sait à peu près ça, mais combien nécessaire qu'on se le fasse rappeler. Parce que quelquefois, on prend vraiment Dieu pour une machine distributrice. Quelquefois, Jacques va dire que les prières des chrétiens s'engouffrent parce qu'ils prient pour leurs propres besoins, tout simplement oubliant le royaume de Dieu et ils prient pour ce qui les passionne, eux. Donc, la semaine prochaine, on va regarder la force intérieure que devrait nous donner la prière. Ça va nous servir pour arriver dans cet amour-là de façon plus adéquate. Donc, on va tout simplement incliner la tête et se mettre disponible. Vous allez, Seigneur, si cette parole-là avait quelque chose pour moi, parle-moi. Si cette parole-là devait toucher une partie de mon âme, de mon être intérieur, est-ce que tu as encore à me sculpter de l'intérieur, Seigneur? Est-ce que tu as encore à faire du travail dans ma relation avec mon épouse, avec les autres? Est-ce que je me mets en premier ou je mets les autres en premier? Inclinons notre tête et prions. Seigneur, la parole que j'ai donnée, Seigneur, ce soir n'est pas une parole. Je n'avais pas la prétention d'apprendre plein de choses à plein de personnes. Mais, Seigneur, tout simplement de ramener tes enfants, Seigneur, à bien comprendre qu'est-ce que tu nous as offert. Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour que tu as pour nous, qui est inconditionnel, qui est large, qui est profond, mais qui combien, Seigneur, quelquefois est mal comprise. Et nous avons une vision tout à fait religieuse de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la prière, et nous manquons l'essence même du but de cet amour-là, de nous amener à considérer les besoins des autres, à considérer le royaume sous la forme, Seigneur, que toi, tu vas nous transformer, nous changer, tu vas cultiver, tu vas amener à maturité ou sculpter, on peut employer le terme, Seigneur, qui nous plaît, mais tu vas nous amener à travers cela, aux étapes de nos vies, à mieux concevoir, à mieux connaître ton amour qui va nous transformer, nous changer, afin qu'on puisse mieux aimer notre prochain et mieux avoir, Seigneur, cet esprit-là de compassion qui doit habiter, Seigneur, dans nos yeux. Nous ne devons pas être des agents spirituels froids appliquant la parole ou donnant la parole comme un marteau. Mais nous devons avoir l'égard, Seigneur, et à ta parole et à ton peuple, et ne pas laisser nos caractères donner, donner une parole, Seigneur, qui peut être comme un poison. Tirer de ta parole, mais sans amour, sans compassion, tout simplement pour condamner. Donc, ton amour, elle, nous a rachetés, ne nous condamne pas, et à bien plus forte raison. Comme j'enseignais cet après-midi au couple que j'avais devant moi, ben devant moi, de l'autre côté, de l'écran, Seigneur, comme je leur disais à eux, que l'amour entre un homme et une femme n'est qu'un pâle reflet de l'amour qui devrait exister entre nous et toi, Seigneur. Et que cet amour-là doit être partagé de façon à ce que chacun y trouve le bonheur. Et pour nous, Seigneur, ce soir, est-ce que ma vie te plaît, Seigneur? Est-ce que je suis un enfant duquel tu es fier ou tu as honte, malgré que je sois ton enfant? Seigneur, donne-nous une saine réflexion là-dessus. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, soyez bénis. On reprend le tout la semaine prochaine. On va regarder le but, la prière, la force que la prière peut donner à notre âme. Soyez bénis. Jean-Baptiste.
C'est pas fermé.